Merci d'être là à cette heure matinale. Et alors, comme il n'y a pas grand monde, du coup, on va se mettre là. C'est plus cool que sur l'estrade, que comme si nous étions à l'école. On n'est pas vraiment à l'école. À moins qu'on fasse une interro après.
On va éviter.
On va vous donner un cours de Sir Cédric aujourd'hui. C'est une matière assez rare, hein, comme cours, mais bon, je crois que c'est important. Alors, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et je suis ravi d'accueillir un auteur. On ne voyez plus rien. C'est juste parce que.
Ouais. C'était pas mal avec moins de. Ouais.
Bah, tout le monde nous voit bien, même sans la lumière. Ça va. En même temps, on est 20. Ça va aller. C'est pas comme quand tu es en concert, il y a plus de monde.
Quand je suis en concert, c'est très différent parce que je vois pas le public.
Ah ouais.
Parce que je suis très timide et là je suis pétrifié de trac, ça se voit pas, mais quand on voit pas les gens, c'est vachement mieux.
Alors, donc on va se faire une heure avec Sir Cédric, représentant de la littérature noire,
oui.
du thriller, on peut dire le mot gothique.
Non, on peut pas dire le mot gothique, mais on aura l'occasion d'en parler.
On va vous en parler après. Donc le petit Sir Cédric.
L'imaginaire noir, ouais.
D'accord, l'imaginaire noir. Donc, Sir Cédric est né en 1974, en Haute-Garonne. Les premiers pas, peut-être, dans la lecture, quels sont les premiers auteurs un petit peu qui t'ont marqué ?
Ben en fait, j'ai commencé à bouquiner très tôt, absolument tout ce qui me passait sous la main. Donc, c'était. Alors, le premier, si je m'en souviens, le premier bouquin qu'on m'a offert, j'ai encore l'image en tête, hein, c'était Oui, Oui. Pour le Oui, Oui, le jouet au pays des jouets. Voilà. Parce que c'était une occasion spéciale, j'étais à l'hôpital donc je m'en souviens très bien. Non, j'ai vraiment bouquiné tout ce qui me tombait sous la main. Petit à petit, je suis passé aux bibliothèques vertes. Et puis, je suis passé au Bob Moran hein, que j'ai dévoré quand j'étais tout petit. Donc j'ai commencé par ça, par les livres d'aventure et finalement d'imaginaire déjà, parce que Oui, Oui, c'est quand même de la fantaisie. On oublie trop souvent de le dire, mais c'est vrai. Donc des bouquins dans lesquels il y avait des histoires.
Déjà gros lecteur.
Ouais. Oui, par contre, c'est depuis toujours. Et d'ailleurs, mes parents se posaient des questions parce que les bouquins, je les lisais en une soirée. Ils étaient persuadés que je ne les lisais pas. Et alors que si, je les dévorais, je les adorais, mais ça allait vite, quoi.
Et alors, à l'adolescence, la rencontre avec...
Et puis, voilà. Le vrai premier choc complet de ma vie, ça a été quand j'ai découvert Tolkien. Et donc, par Bilbo le Hobbit. J'étais en sixième, donc je m'en souviens très bien, et j'ai enchaîné par le Seigneur des Anneaux, et ça m'avait complètement traumatisé à l'époque. Je saoulais tout le monde avec ça. J'avais fait des expos en cours de français. Ouais, ça vraiment, c'était quelque chose que c'est une façon de raconter les histoires et une portée à la fois humaine et dans le côté épique que j'avais jamais eu l'occasion de lire jusque-là. Donc c'était une révolution complète.
Tout à l'heure, on parlait de Clive Barker.
Ça, c'est venu plus tard. Alors en fait, pour résumer un petit peu, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, vraiment, premier choc complet. Assez peu de temps après, parce qu'à cette époque-là, je me suis mis à dévorer de la fantasy, tout ce qui me tombait sous la main. Donc pareil, gros lecteur, il y avait Conan le Barbare, il y avait Elric le Nécromancien qui m'a excessivement marqué, on en reparlera peut-être, mais dans tout ce que je fais aujourd'hui, dès qu'un personnage est touché par la magie, il a les cheveux qui deviennent blancs. C'est un vieux truc obsessionnel. Et objectivement, ça vient de Elric, de Mel Libonnet, c'est évident, à qui je m'étais totalement identifié à l'époque. Et à partir de là, j'ai découvert le fantastique. Donc, j'ai glissé en fait de la fantasy vers le fantastique. J'ai découvert Stephen King. Un nouveau gros choc de se dire, ouais, on peut écrire des trucs comme ça, parler de la société, de la vie de tous les jours... Parfois de rien du tout, mais juste tourner les pages parce que le gars a eu un ton de voix et de conteur qui est tellement fabuleux qu'il peut raconter n'importe quoi, on tourne les pages et on trouve ça génial. Et après ça, donc là j'étais un tout petit peu plus vieux, je devais avoir 15 ans je pense à peu près, j'ai lu les livres de sang de Clive Barker et là ma vie a changé, mais totalement, vraiment, on peut dire que c'est l'auteur qui a changé ma vie. Et qui, si je suis auteur aujourd'hui, c'est grâce à Clive Barker, clairement.
Ouais, tu me disais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il avait...
Alors, pour plein de raisons. J'étais adolescent déjà, c'est une période assez compliquée du point de vue psychanalytique, tout ça. Clive Barker arrivait avec des thèmes qui avaient, à mes yeux, jamais été faits avant, et une approche aussi de la littérature et de... Je vais simplifier, parce que là, ça c'est très abstrait ce que je suis en train de dire, mais il écrivait des choses très sanglantes sur les métamorphoses du corps, sur... il a un petit peu élevé le gore au rang d'œuvre d'art avec de la véritable prose. C'est vraiment de la littérature. Parce qu'avant tout, ce qui m'intéresse, c'est les mots, c'est le texte, c'est la littérature au sens large. Et Clive Barker, c'est un auteur. C'est pas un auteur d'imaginaire, c'est un auteur tout court. Et dans la manière dont il abordait les choses, jusque-là, il y avait Stephen King, pour placer les choses historiquement. Il y avait un statu quo, qui est la société, qui est notre vie de tous les jours. Un élément arrive, un monstre, ça peut être l'extraterrestre, le vampire, le communiste, en fonction de à qui ça s'adresse, qui met en péril ce statu quo, les valeurs familiales, et les gens essayent de se réunir pour lutter contre ce monstre, et en général, ils y arrivent, et à la fin du bouquin, le monstre est détruit, et le statu quo de départ revient. Ça, c'était une façon de faire de la littérature. Et quand Clive Barker est arrivé dans les années 80, tout d'un coup, ce gars s'est mis à parler du même statu quo de départ, en se mettant souvent du côté du monstre, pas forcément, mais le monstre arrive, les choses de nos vies sont totalement perturbées, mais il n'y a jamais de retour. Il y a jamais, même si le monstre meurt, et là c'est une tragédie, les gens sont métamorphosés. On revient à cette fameuse évolution, métamorphose qui est à la fois mentale et physique, très graphique. Et ça, pour moi, c'était totalement nouveau. J'avais jamais lu des choses comme ça à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'après Barker, il n'y a pas eu vraiment de grande évolution de cette ampleur-là, en fait.
Quel ado t'étais ?
J'étais un ado qui vivait dans sa tête. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus, mais
ça veut dire quoi ? Pas d'amis, tout seul à la récré et tu manges tes nouilles au bout de la table.
Avec un livre ouvert tout le temps, voilà. Qui vivait dans son imaginaire et qui dont les parents s'inquiétaient justement parce que c'est pas normal. Voilà.
Est-ce que c'est à cette époque-là que tu commences à écrire ?
Alors en fait, concrètement, j'ai commencé à écrire après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, donc c'était en 6e. Et puis à la même période, c'était aussi l'époque où était sorti chez, je ne sais plus quel éditeur, les livres dont vous êtes le héros, des petits romans interactifs, hein, c'était le début des jeux de rôle, hein, et qui étaient eux-mêmes dérivés de l'univers de Tolkien, enfin, il y avait Donjons et Dragons juste avant. Et... j'étais plongé dans cet imaginaire-là et je me mettais à écrire des histoires. Le premier bouquin que j'ai écrit en entier, c'était un livre interactif.
Un livre dont on est le héros.
Un livre, voilà. Donc vous êtes le héros. Même principe de chapitre qui donne le choix au lecteur d'orienter l'histoire.
Et je crois qu'à cet âge-là, t'as eu quelques prix déjà.
Ouais, je ne sais pas si c'est très important, mais oui, j'écrivais des petites nouvelles, donc je les envoyais et j'ai gagné quelques petits prix adolescents, mais... c'est pas très important, je pense pas. Ouais.
La grosse étape, c'est après, c'est une émission de radio.
Alors ça, c'est des années plus tard. Alors en fait, ouais, j'ai écrit pour moi pendant très longtemps, toute cette période. Et dans les années 90, j'ai intégré, donc j'écoutais beaucoup de musique. Et j'avais intégré une émission de radio en région toulousaine qui s'appelle, qu'est-ce qu'elle continue, Nocturnal Tears. Et donc, mon pseudonyme, un peu étrange... Sir Cédric vient de cette époque-là, puisque dans l'émission, il y avait Maître Ludo, qui était l'animateur, il y avait Dame Isabelle et Sir Cédric. Ça vient de là. On ne rit pas. Ça faisait très banquet médiéval. Et donc, c'était une émission de métal. C'était une époque où c'était encore vraiment du hard rock. Il n'y avait pas encore eu le métissage actuel avec les musiques gothiques ou électroniques. C'était vraiment du hard rock, un peu à la Metallica, pour simplifier. Et c'est-à-dire quand il y avait une chanteuse dans un groupe, c'était l'événement total, ou quand il y avait une phrase en voix féminine dans un groupe de métal, c'était la réalité, alors qu'aujourd'hui c'est devenu la norme. Et donc cette émission vraiment essayait de creuser cette veine-là, et quand j'avais intégré l'émission, j'avais une petite rubrique où je passais de la musique classique ou des trucs assez barrés par rapport au style métal, ce qui encore aujourd'hui est devenu une norme, c'est devenu la mode même carrément, et je lisais des textes. De Clive Barker, de Poppy Z. Bright, d'auteurs qui me faisaient triper, et j'ai fini par lire mes propres textes au sein de cette émission.
Je fais juste une parenthèse sur le pseudo, Sir Cédric.
Vas-y.
Du coup, pourquoi est-ce que tu l'as gardé et qu'est-ce que tu y mets maintenant comme signification derrière ?
C'est compliqué, je sais pas. Disons que c'est devenu mon nom, en fait. Mes amis, depuis les années 90, m'appellent Sir C, puisqu'en fait, au départ, c'était Sir et l'initiale C. C'était un clin d'œil vis-à-vis de la magicienne. Et tous mes amis, aujourd'hui, m'appellent Sir C. Donc, je l'ai gardé. Je me suis mis à publier de manière professionnelle depuis quelques années et je le garde. C'est un pseudo à double tranchant. Les gens le retiennent. Au niveau des référencements, c'est très difficile, hein, puisque il y a toujours un secrétaire de rédaction qui va penser que c'est un nom de famille au dernier moment et qui va, ou dans les interviews, qui va écrire Cédric Cyr. Alors, je me suis souvent posé la question, dois-je le conserver ou reprendre un autre pseudo ? Pour l'instant, je le conserve. Je me sens à l'aise dans ce pseudo, mais c'est vrai qu'il est bizarre et il est parfois mal compris.
Tu pourrais t'en passer aujourd'hui ?
Je sais pas, sans doute. Enfin, c'est un peu accessoire, en fait, mais mes potes m'appellent comme ça, j'ai commencé à publier comme ça, donc mais régulièrement, je me pose la question. Je me dis, bon, est-ce que je devrais arrêter ou pas ? Et par défaut, je continue. Et c'est pas si important que ça, en fait. Ouais, ce qui est important, c'est les bouquins, et il faut les lire.
Faut-il tuer Sir Cédric, quoi.
Pas pour l'instant, hein. On va pas lui couper la tête de suite. Hein, au pauvre, hein.
On revient à la radio, donc ouais. À ce moment-là, tu commences à écrire des nouvelles que tu lis, et tu me disais tout à l'heure que tu commences à faire des démos.
Ouais, alors en fait, il faut remettre ça dans le contexte, hein. C'était donc les années 90, je connaissais absolument rien au monde de l'édition, ou à comment on faisait pour être publié. Et j'avais juste une envie, c'était de faire partager les choses que j'écrivais. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à la radio, puisqu'au moins c'était direct. Je parlais, j'espérais que des gens allaient m'entendre. Et les groupes, hein, parce que donc, je viens aussi de ce milieu alternatif de hard rock, les groupes ont toujours fait des démos. Alors, à l'époque, c'était sur cassette. Hein. Après, ça a été disque avec des CDR. Maintenant, c'est des MP3 sur MySpace. Mais l'idée, c'est la même, c'est de faire partager les choses qu'on fait. Du coup, je me suis dit, je vais faire comme eux. Et j'avais imprimé moi-même des petites plaquettes, hein, avec trois nouvelles, hein, à chaque fois, qui avaient bien marché. Et je vendais ça au prix coûtant par la poste, hein, à l'époque, hein, et pour avoir un premier public. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers lecteurs. Ça a été mes premières publications. J'en ai fait trois.
Ouais. Alors, trois de trois nouvelles, c'est ça ?
Ouais.
Quelles étaient les thématiques à l'époque ?
Alors, en fait, Ouais, je vois où tu vas en venir. Non, c'était super fun en fait, parce que donc voilà, c'était rock'n'roll. J'écrivais aussi beaucoup pour m'amuser. La première démo s'appelait Religueré et regroupait trois nouvelles qui mettaient en scène des histoires au 36e degré. C'était des nouvelles porno, gore, mettant en scène la religion. En fait, c'était le lien entre la sexualité et la religion, avec des nonnes et des démons, et donc c'était pas sérieux du tout. Ça, c'était ma première. À chaque fois, j'essayais d'avoir un thème. La seconde démo de texte que j'avais fait, s'appelait Mélancolia. Là, c'était plutôt des nouvelles hommages au milieu dans lequel j'étais, le milieu alternatif. Et la troisième que j'ai fait, c'était donc en 2001. Regrouper trois nouvelles, elle s'appelait Muse, et regrouper trois histoires mettant en scène des femmes fatales ou des relations exaltées, d'idéalisation des muses de la féminité, des rapports autodestructeurs aussi. Et une des nouvelles d'ailleurs au sommaire qui s'appelle Muse, enfin le recueil s'appelait Muse au pluriel et il y a une nouvelle qui s'appelle Muse au singulier, qui se retrouve dans mon recueil Dreamworld. Donc, parce que c'est une des nouvelles dont je suis très content.
Oui, alors
c'est la seule, je crois, des recueils qui a survécu.
Quel regard tu as sur ces premiers textes publiés maintenant, un peu plus de 10 ans après ?
C'est des super souvenirs, c'est des bornes kilométriques aussi. Et puis le but a été atteint, c'est-à-dire que je voulais faire partager mes textes, hein, je l'ai fait. Donc après, c'était mes nouvelles de jeunesse, donc elles étaient bourrées de défauts, mais j'en suis. Je pense aussi que mon pseudo et mes textes ont commencé à circuler grâce à ça. Comme les groupes en fait, qui font écouter leur musique quasiment gratuitement pour que les gens s'intéressent à eux.
Alors, autre étape très importante, c'est l'étape du premier roman. Alors, comment ça s'est passé pour toi ? Tu as beaucoup écrit de nouvelles, mais aussi des romans que tu as mis dans ton tiroir jusqu'au jour où il y en a un qui a été publié. Ou est-ce que après les nouvelles, tu t'es mis à écrire un roman, il a été publié.
Alors, en fait, ça n'a pas été calculé. C'est un peu comme tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, en fait. C'est juste, je fais des trucs sans vraiment me poser de questions. J'ai écrit plein de romans quand j'étais ado, dont la plupart n'ont pas été finis, dont certains ont été finis, personne ne les a jamais lus, et heureusement, avec le recul. Et donc, ce n'était pas ça le plus important. J'ai commencé à publier essentiellement des nouvelles, parce que c'était la forme la plus simple, la plus immédiate, hein, c'était court. On pouvait les lire à la radio, on pouvait l'envoyer à des magazines, à des anthologies. Et donc j'ai commencé à placer des petits textes. Et mon premier bouquin professionnel, qui s'appelle Déchirure et qui est sorti en 2005, chez un petit éditeur qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Nuit d'Avril, c'était logiquement un recueil de ces textes, de mes préférés. Voilà. Mais ça n'a pas été fait de manière calculée. Et juste après, j'avais un roman qui s'appelle Ange Mort, qui était prêt, qui a été écrit un peu dans la foulée et que l'éditeur a bien voulu publier. Donc ça s'est fait comme ça. Vraiment sans calcul, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut dire peut-être un petit mot d'Ange Mort ? Quelle était un petit peu l'histoire de
Ange Mort ? C'est thèmes. Donc mon premier roman et c'est de la fantaisie. Totalement délirante. C'était un hommage, en fait. Enfin, c'est mon humble hommage aux séries B que j'ai dévorées quand j'étais ado aussi. Les films d'horreur qui se prenaient pas du tout au sérieux, avec des personnages caricaturaux. Donc j'ai essayé de faire un bouquin fun. Donc il y a des démons, ils se balancent des boules de feu. À la fin, il y a une influence aussi des mangas. C'est un livre qui a été perçu de manière très différente par différents lectorats. C'est pas un livre qu'il fallait lire de manière sérieuse. Certaines personnes l'ont lu de manière sérieuse et n'ont pas compris, parce que c'était vraiment du gros délire. Et d'autres personnes, au contraire, ont adoré. Enfin, c'était assez marrant, les réactions très contradictoires des lecteurs sur ce roman, parce qu'il y avait aussi donc, des scènes de pornographie avec des démons à trois sexes, hein, des trucs. Et il y a des lecteurs qui s'attendaient pas à ça, en fait. Donc voilà, c'était mon premier roman. Et il a eu un prix, de manière assez étonnante.
Il a été important, ce prix Merlin ?
Pour moi, oui. Au niveau des ventes, hein, et de je sais pas quoi, de la renommée, je pense au non. Mais pour moi, oui, parce que c'était un prix des lecteurs. Donc le fait que des lecteurs aient aimé et plébiscité ce livre-là, ouais, forcément, c'était super important pour moi.
Alors on continue à parcourir ta bibliographie. On va vite parce qu'il y a plein de questions et puis on voudrait lire un extrait. Enfin, il y a plein de choses à raconter avec Sir Cédric. Mais après, il y aura une séance de questions. Donc, on pourra revenir sur chacun des livres si vous le souhaitez. En 2006, Ange Mort. En 2007, Dreamworld.
Ouais.
Alors, Dreamworld, qu'est-ce que c'est exactement ?
Dreamworld, qui ressort chez le Pré-Auclair dans deux semaines. C'est un recueil de nouvelles. Et là, par contre, la thématique est assez différente. C'est dans ce recueil qu'on retrouve la nouvelle dont je parlais, Muse. C'est vraiment un recueil de nouvelles, mais c'est le plus écrit que j'ai fait jusque-là, en fait, parce qu'à la base, dans mes influences littéraires, il y a les séries B anglo-saxonnes d'horreur, du thriller horrifique, au style Masterton, mais il y a aussi les auteurs classiques, et romantiques, exaltés et décadents. C'est aussi grâce à eux que j'ai appris à écrire, parce que pour moi, c'est pas tout de raconter des histoires, il faut aussi que la prose soit vraiment intéressante. Et ce recueil-là, il est vraiment limite écrit en prose poétique. Et il aborde des thématiques. Donc il y a 9 histoires différentes, mais qui abordent la thématique générale du monde des rêves. Et du fait, en gros, que oui, il y a un monde des rêves qui est parallèle au nôtre. Et qu'on peut tout à fait le voir. Les enfants sont capables, ont des pouvoirs magiques, peuvent voir l'invisible, jusqu'au jour où des adultes leur disent mais non, c'est pas possible, arrête tes conneries, si tu veux grandir, arrête de croire à ça. Et on se force à couper le cordon ombilical qui nous relie à ce monde-là. Et c'est un petit peu le thème de fond de toutes ces nouvelles, en sachant que la magie ne meurt jamais, même si on l'a totalement étouffée au fond de nous. Et la part d'enfance aussi qu'on tue, mais qui reste. Parce que je reste un gamin, un mec qui n'arrive pas à vieillir, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre dans ce recueil-là.
D'accord. Justement, comment est-ce que tu travailles ? Alors, est-ce que tu as identifié le processus par lequel les idées naissent ? Et comment est-ce que tu travailles ? T'es du genre à faire un premier jet sur un brouillon, à prendre des notes, à y revenir ?
Je travaille de manière très bordélique. Ça dépend, en fait. En fait, chaque texte que je fais est une aventure totalement différente pour moi. Donc je ne me suis jamais pris réellement deux fois de la même manière. En général, ça commence de manière très spontanée, spasmodique. Il faut juste que j'écrive, que j'écrive. Et puis des fois ça donne des choses et des fois ça donne rien du tout et ça part directement à la poubelle. À l'heure actuelle, j'essaye de structurer un petit peu plus, de faire des plans que je respecte pas. C'est des aventures totalement différentes. Pardon, à chaque fois. Par contre, il y a plusieurs parties pour moi dans l'écriture. Il y a le premier jet, il y a la naissance, cette espèce de flow de texture. En fait, j'aime bien imaginer l'écriture comme du travail de texture. Un peu comme la musique, c'est de la texture sonore qu'on va essayer de modeler, de mettre en forme. Quand on écrit, on utilise une matière qui sont les mots, et il n'y a que ça. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'intrigue. C'est l'image que je prends toujours, mais un bouquin, c'est du papier avec des taches noires, quoi. Et c'est uniquement grâce à ces mots, l'ordre des mots, la couleur des mots, qu'on va réussir à créer des images fluides, si on le travaille bien. Et ça, c'est une deuxième partie du travail que j'adore, que certains auteurs n'aiment pas forcément, mais retravailler, couper, faire du Frankenstein avec son propre texte, en intervertissant les paragraphes, en enlevant des adjectifs, en les remettant. Ce travail de lissage et de léchage du texte, j'adore, quoi.
Et sur les idées, tu as réussi à identifier un peu le processus et tu te balades, tu vois une feuille morte et ça te donne l'idée d'un roman ou comment ça se passe concrètement ?
Alors, c'est la fameuse question, où est-ce que vous trouvez vos idées ? Personne ne sera capable de te répondre. Mais j'ai des images obsessionnelles qui ressortent systématiquement et dont j'essaie de me débarrasser en plus, mais je parlais de la couleur blanche des cheveux de mes personnages. J'essaie de m'en éloigner, mais à un moment ou à un autre, il y a toujours un de mes personnages qui va avoir une vision et dont les cheveux ont changé de couleur, ou un albinos, ou mes démons qui ont les cheveux blancs. C'est assez intéressant, mais je pense que écrire, c'est aussi une thérapie. Donc, non, mais surtout le fantastique. Il ne faut pas oublier que j'écris du fantastique et que l'imaginaire fantastique, c'est de l'imaginaire psychanalytique. Donc, en ce qui me concerne, là, je parle vraiment que pour moi. Je puise dans ça, dans mes obsessions. Voilà. Je sais pas comment font les autres, mais moi c'est ça, c'est vraiment ces choses qui tournent en boucle dans ma tête. J'écris pour pas devenir fou quelque part. C'est vrai.
Alors ça c'est pour la partie fantastique. Alors du coup, on pourra jamais te voir écrire une nouvelle, je sais pas, très joyeuse ou un roman d'amour. Ou...
Pourquoi pas ? Pourquoi pas Rien n'est impossible, et puis la vie, c'est une évolution constante. Je parlais de la transformation, de l'évolution, c'est ça. Ce qui me ferait très peur, c'est la stagnation, ou c'est les réponses définitives, les dogmes, les machins. Non, je trouve qu'on est en perpétuelle évolution, et moi, en tout cas, mon approche de la littérature est en perpétuelle évolution, donc je m'interdis absolument rien.
Alors l'autre grande étape, c'est L'Enfant des cimetières, qui vient de sortir aux éditions du Préau-Clair, enfin qui est sorti il y a quelques mois. On va peut-être commencer simplement par vous lire un petit extrait.
Si tu veux.
On a prévu ça.
Oui, enfin on a prévu.
Enfin on a prévu. On se l'est dit autour d'un café en disant « Ouais, ça serait bien ».
Moi je peux lire effectivement le prologue, qui n'est pas représentatif en fait. Le bouquin commence de manière après très différente, mais le prologue est... Je ne sais pas s'il n'est pas trop long par contre pour être lu d'une traite.
Souvent, il fait le même rêve. Un rêve de nuages noirs, si noirs qu'ils ressemblent à d'immenses ombres vivantes se regroupant au-dessus de la mer. Il en vient de partout. Des ténèbres veloutées remplacent le ciel, effacent la lune ronde, s'étalent à perte de vue, jusqu'à ce que le monde soit plongé dans une obscurité profonde. Sur la côte, alors que s'étend la noirceur, les animaux ont déjà regagné leur terrier et les hommes se barricadent à leur tour pour échapper à la tempête qui s'annonce. La mer se froisse, rugit, les vagues se soulèvent au large, là où nul navire ne vogue, là où nul œil humain ne pourra être témoin de son arrivée. Une silhouette féminine crève la surface des eaux dans un jaillissement d'embrun et s'élève dans les airs. Elle monte jusqu'au cœur de l'orage, lumineuse, seulement vêtue d'une robe d'écume qui scintille de diamants. Avec sa chevelure déployée, son rire mélangé à la fureur des éléments, elle chevauche les nuages noirs qu'elle a invoqués pour couvrir son escapade. Dans la langue des hommes, on la nomme Naema. Elle vient des enfers, cette région froide de l'éther où les âmes se tordent dans un océan de flammes bleues, ce qui est justement le fruit de son désespoir, car même pour les démons, l'éternité n'a aucune saveur. Naema s'y ennuie à mourir. En comparaison, la terre des humains regorge d'une infinité de distractions. Naëma revêt un corps de femme à la beauté éblouissante. Elle aurait pu servir de modèle originel à toutes les muses, dans les rêves des poètes de tous les temps. Et peut-être a-t-elle vraiment été ce modèle. Inspiratrice de toutes les inspiratrices, mère de toutes les égéries, un corps gracile aux hanches généreuses, aux fesses rondes pleines de promesses, une poitrine qui appelle les baisers et les caresses, un visage de poupée de porcelaine dont la bouche gourmande semble à elle seule l'incarnation du désir, et de longs cheveux, eux aussi de cette soie blanche dont sont faits les anges, qui fouettent ses épaules nues en chantant des litanies dans des langues impossibles. Dans ses yeux, le bleu intense des profondeurs. Cela fait longtemps que le démon n'a pas volé avec les orages. L'obscurité, le vent, la pluie lui ont manqué. Et ses éclairs qui crépitent autour d'elle, dans une fabuleuse odeur d'ozone. Son rire redouble, devient jubilation, tonnerre, fracas, arbre calciné. À aucun moment, elle ne croise âme qui vive. Seul un fou s'attarderait dans pareille tempête. Cette nuit appartient entièrement à Naëma. Elle arrive à destination. Elle est venue chercher de la compagnie. Elle sait très précisément où la trouver. En fait, celle des vivants ne l'intéresse nullement. Naëma est une créature de passion. Les humains ne comprennent pas ce sentiment. Naëma désire la compagnie d'êtres qui ont vu par-delà la vie pour savoir réellement ce que le corps et les plaisirs représentent. Ses pieds nus touchent le sol devant la grille d'un cimetière à l'abandon. Sa robe d'écume l'a abandonnée dans les airs au milieu des tourbillons de pluie qui enveloppent le paysage d'humidité et de froideur. Le corps nu tout en courbe du démon, si blanc qu'il semble sculpté dans de la neige, ou de la glace peut-être, dégage une douce lumière. Ses cheveux se tordent et ondulent pour humer l'air nocturne, sans cesser de pousser de petits piaillements comblés. Chaque pore de son corps divin s'ouvre et se contracte sous les caresses de la pluie. À chacun de ses pas, sur le sol humide, de l'herbe pousse, soyeuse, de grosses fleurs blanches s'épanouissent dans son sillage. Les grilles du cimetière s'ouvrent, en silence, à son approche. Elle entre dans ce joli petit lieu de repos, ce lieu d'oubli. Elle avance, bras en croix, effleurant du bout des doigts les vieilles tombes qui ruissellent. Les arbres ploient vers elle, les anges de pierre tournent la tête après elle, implorant encore une caresse. Mais le démon n'est pas venu pour eux. À sa suite, les fleurs blanches recouvrent les bustes et les ailes. La maison de la mort devient un jardin, ce qu'elle aurait toujours dû être. Sur la terre, sous la terre, dans leur prison de bois, les êtres allongés ont commencé à frémir. Leur cœur repousse, tels de gros champignons gorgés de sang, emplissant leur poitrine vide, leur carcasse rongée par les vers et peuplée d'animaux gluants. Ceux qui ont encore des restes de chair sur leur squelette la sentent vibrer, se tendre, reprendre un peu de texture pour permettre aux articulations de fonctionner à nouveau. L'appel de la vie les irrigue, durcit leur sexe, leurs vulves desséchées s'emplissent de sécrétions palpitantes, les mâchoires mastiquent, les gorges déglutissent, les vieux ongles déchirent les restes de leur sueur qui les gênent, et ils se mettent à gratter, à s'enfoncer dans les vieilles planches pourries, à creuser la terre pour rejoindre ce monde nocturne où ils sont conviés une seconde fois. Un à un, les morts s'extirpent de leur mausolée, brisant les portes et renversant les pierres tombales. Du fond de leur gorge renaît le verbe, une plainte d'adoration qui monte sous la pluie à mesure que l'herbe luxuriante et les fleurs s'épanouissent, une litanie de joie. Naëma est revenue pour eux. Eux seuls peuvent la comprendre, eux seuls peuvent l'aimer, eux connaissent la solitude éternelle. On peut s'arrêter là, parce que ça continue. Oui,
vous pouvez l'applaudir, c'est pas un exercice facile.
Alors, c'est pas très représentatif du bouquin, parce qu'après c'est quand même une intrigue policière.
Ouais, après on est vraiment dans un thriller fantastique.
Ouais.
Alors pareil, même chose, fais-nous un peu la genèse de ce roman, comment est-ce qu'il est né dans ton esprit ?
De manière bordélique, comme je le disais tout à l'heure. En fait, le premier texte que j'ai commencé à lire, qui est le prologue dans le roman, était une nouvelle que j'avais écrite il y a quelques années, qui avait été publiée dans un artbook en hommage à un peintre. Et je suis parti de là, parce que, bon, en gros, le démon arrive, ça couple avec l'ensemble des morts qu'on a vu se réveiller, et a un enfant au cours de la nuit qu'elle abandonne. Et donc c'est le fameux enfant des cimetières. Et à partir de là, donc ça c'était la nouvelle de départ qui constitue le prologue, j'avais envie d'écrire un roman qui parlerait de ce qui se passe 15 ans plus tard. On ne sait pas ce qui est advenu du bébé, du nouveau-né. Et donc c'est aujourd'hui en France, dans le sud, je me suis servi de légendes urbaines et j'ai essayé de recadrer un petit peu tout. Je me suis mis à écrire au fil de la plume, en fait, comme je fais tout le temps. Et ça a donné ça. C'est assez difficile à expliquer, en fait. J'ai essayé de regrouper diverses choses qui m'intéressaient, des thèmes, hein, la peur du noir, les mythes urbains, notamment des légendes urbaines comme celle de la Dame Blanche, et du coup celle de l'enfant des cimetières, qui est un adolescent ou un jeune garçon aux cheveux blancs que des gens auraient aperçu au bord des cimetières. Et puis les personnages sont nés d'eux-mêmes, un enquêteur, une peintre qui a un don de double vue, et puis ça a fait le livre. C'est très difficile à expliquer, en fait, concrètement comment on crée. Mais disons que c'est un petit peu comme des pièces de puzzle que j'explore les unes après les autres, et naturellement, au bout d'un certain temps, elles se rejoignent toutes.
Pour illustrer un petit peu ce que tu disais sur cette prise avec la réalité, la première scène, c'est un père de famille qui a tué toute sa famille et lui-même.
Ouais, c'est-à-dire que juste, voilà, c'est 15 ans plus tard, les forces de police vont sur le lieu d'un drame familial où un gardien de cimetière a massacré toute sa famille avant de se donner la mort. La police réalise qu'il y a quelque chose d'inexpliqué derrière, mais ils ne savent pas quoi. Et il y a des journalistes qui arrivent en même temps sur le lieu du drame pour prendre des photos assez racoleuses et faire un article. En se posant, en plus, le journaliste qui prend les photos a pas mal de problèmes d'éthique par rapport à son métier et à ce qu'on peut montrer ou pas. Et dans tout ce que je fais, il y a toujours ce rapport entre l'invisible et le visible et le fait de voir ce qui est caché et le fameux monde des rêves parallèle et les interactions avec la réalité. Et on le retrouve tout au long du roman.
C'est un roman assez sombre où il y a une vraie tension de A à Z. Comment t'as réussi à maintenir le suspense comme ça ? Il y a des trucs d'écriture ?
Je ne m'en rends pas compte. Il y a une chose que j'essaye de faire, c'est d'écrire de manière très visuelle. Parce que c'est la manière dont j'imagine les choses, donc j'essaye de décrire les choses de telle sorte que qu'à la lecture, on ait des images, hein, on ait un flot d'images, hein, parce que je fais aussi partie de ces nouveaux auteurs qui ont grandi avec le multimédia, avec les images. Je parlais tout à l'heure de Bilbo le Hobbit, donc là on revient à quand j'avais 10 ans. La raison pour laquelle j'ai lu Tolkien et j'ai découvert Tolkien, c'était parce que j'avais un jeu sur Amstrad CPC 464 à cassette, c'était une autre époque, hein, qui s'appelait Bilbo le Hobbit, que je comprenais pas parce que c'était en anglais en plus. C'était un jeu d'aventure. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un livre. Et cette interaction, elle est assez nouvelle. Enfin, nouvelle, maintenant ça fait une vingtaine d'années. Mais avant, les auteurs écrivaient. Il y avait la forme romanesque, hein, c'était la seule forme de référence. Aujourd'hui, on a une multitude d'écrans, on a Internet, on a ces fameuses légendes urbaines qui sont tout à fait nouvelles, ce folklore qui s'immisce sur la toile. Hein. Et au niveau de l'écriture, je pense que ça développe des nouvelles formes de narration que je trouve très riches, à titre personnel.
Ouais, c'est vrai que tu es un auteur très, très visuel, mais tu es aussi un musicien.
Comme je disais, mes racines, c'est le hard rock, et je crie dans un micro au sein de trois groupes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que j'écris, c'est une forme d'expression totalement différente. Qui relève plus de la poésie que la narration avec le fléchage. Voilà, donc c'est pas du tout le même univers, mais la couleur générale reste la même.
Alors, on va reparler de la musique, mais avant, je voudrais qu'on tente le coup à une autre étiquette. C'est celle, on parle de thriller gothique. Ouais. Pour ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça t'inspire, le gothisme ?
Déjà, le gothisme, non. On ne parle pas de punkisme ni d'autre chose. C'est super compliqué. C'est un vieux quiproquo dont j'ai déjà parlé plein de fois. Je suis issu de scènes alternatives, machin, oui. J'ai le look que j'ai, oui. Le milieu gothique, je m'en fous complètement et j'ai rien à dire dessus. Donc c'est assez compliqué à chaque fois à faire comprendre aux gens. J'écris des histoires avec mon imaginaire, qui est très obsessionnel et qui est très influencé par le romantisme noir. Justement, je parlais des auteurs classiques tout à l'heure, mais les gens comme Barbey d'Aurevilly, tout ce qui est Lautréamont, Baudelaire, enfin Théophile Gautier, tous ces gens-là, c'est avec eux que j'ai appris à écrire aussi. Et ces gens-là ont effleuré des thématiques qui me touchent. Et effectivement, il y a une certaine forme de musique qui s'inspire des mêmes thématiques. Mais voilà, ça s'arrête là. La jonction des deux, c'est juste ça. C'est des thématiques sensiblement les mêmes. Baudelaire s'habille en noir. On va pas se poser la question pour savoir si c'était un gothisme ou autre chose. Voilà.
Alors, on va revenir à la musique. Quels sont un petit peu les liens, et en termes d'écriture, et puis est-ce que tu écris avec de la musique ? Quelle est la place de la musique dans ton travail de romancier ? Et vice-versa.
J'écoute de la musique à longueur de journée, donc je pense que ça rythme aussi le phrasé. Ou alors, parfois, l'absence de musique est une musique en soi, donc il y a aussi des textes que j'ai écrits dans Le silence le plus total. Récemment, je me suis mis à écrire en écoutant birdsongradio.net. C'est des chants d'oiseaux. C'est totalement trippant et c'est différent. Mais ça permet d'amener l'inconscient vers des zones encore différentes. Et comme je disais, et à la limite je vais le répéter parce que c'est assez important, j'ai jamais fait deux fois la même chose jusqu'à présent. Et c'est important pour moi de jamais me répéter. Du coup, de ne pas s'enfermer dans des étiquettes. Ou à chaque fois, c'est une aventure différente. Et du coup, mes techniques d'écriture changent. Et les bandes-sons que je peux mettre pour écrire évoluent en fonction de différentes périodes de mon évolution personnelle.
Et alors, tu écris tes chansons ?
Oui.
Est-ce que c'est le même processus d'écriture ou narratif ?
Non, en fait, alors, quand j'écris des textes pour la musique, c'est vraiment cathartique, c'est encore différent, je pars de mots, de rythme, de sonorité, de comment ça roule, de la couleur des mots. J'ai tendance à voir les choses en couleur en fait. Et donc le processus n'est pas du tout le même. Par contre, on peut dire que c'est complémentaire, puisque la narration de fiction est une narration, donc on raconte une histoire, il faut qu'on arrive à attirer l'attention et à créer du sens. Alors que, pour moi, les paroles de chansons sont vraiment du point de vue inconscient. C'est de la poésie libre. Donc on travaille plus sur le côté mantra, le côté litanique, peut-être dans mon approche personnelle.
Y a des nouvelles ou des romans qui t'ont inspiré des chansons ou vice-versa ?
Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question, je pense pas. L'inverse, par contre, doit parfois une ligne mélodique. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du hard rock, ça peut être de la musique classique, ça peut être du Arvo Part néoclassique, ça peut être n'importe quoi. Juste une ligne mélodique peut m'inspirer un personnage, un mouvement, et puis déboucher le plus naturellement du monde sur une scène, et qui a du sens. Avec toujours cette... je parlais tout à l'heure de mes thématiques, mais le fait de ce qui est invisible, du fait de voir l'autre monde, d'attirer l'autre monde. Dans le roman, il y a un des personnages qui est peintre, et donc ses peintures sont des petits bouts d'ailes finalement, et une façon de... La peinture permet justement de faire venir l'invisible dans le monde visible, puisque c'est un peu comme les bouquins... Et la musique, c'est un peu ça aussi. Le travail de. C'est du son, quoi. Et on arrive à avoir des images. Tout ce jeu-là est assez important pour moi. De ce côté transcendant aussi. Du fait de dépasser. Quand on crie, justement, quand on fait du métal et que la voix se transforme. Mais dans le bouquin, dans L'enfant des cimetières, le fameux enfant des cimetières, qui est un démon, donc, a un pouvoir magique qui s'exprime par le fait d'aller chercher au plus profond de lui une voix monstrueuse comme du tonnerre qui va monter dans sa poitrine et jaillir par sa gorge et réveiller les morts justement. Et cette forme de magie, c'est un petit peu le genre de sensation qu'on peut avoir quand on fait une certaine forme de métal exalté comme ça.
Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc peut-être pas une dizaine de questions, mais s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, c'est le moment, sinon on continue à papoter. N'hésitez pas, j'ai un micro, il est là. À moins de 5 mètres de vous. Personne ? Allez hop, alors on continue.
Il continue alors.
Continuons. Simplement, donc, l'aventure de l'écriture, tout du moins de la publication, ça a une petite dizaine d'années maintenant.
Mon premier livre a été publié en 2005.
Ouais, mais tes premières plaquettes.
Mes plaquettes, oui, mes premiers tâtonnements, c'était 98, je pense, la première. Mmh.
Alors, quel regard tu as sur ce parcours, comme ça, cette progression?
En fait, ça représente ma vie un petit peu. C'est ce que je parlais tout à l'heure de bande kilométrique, mais c'est ça, c'est le fait de matérialiser justement des choses sorties de ma tête, qui ont toujours la même image, mais qui se retrouvent sous une forme physique qu'on peut tenir dans sa main, que les gens peuvent après ouvrir et faire passer dans leur propre tête. C'est une forme de magie pour moi qui est incroyable. Et donc du coup, quand mon petit parcours de publication représente ça. Représente aussi mon évolution personnelle qui est nette d'un livre vers l'autre. Et je me rends compte aussi que j'ai eu une chance incroyable. Le simple fait de réussir à être publié par des éditeurs, d'avoir la chance d'avoir des lecteurs qui dépensent de l'argent pour lire mes trucs. Enfin, c'est inespéré aussi pour moi, mais c'est vrai, on oublie trop souvent de le lire, je trouve. L'auteur doit absolument tout aux gens qui le lisent, quoi. J'ai conscience de cette chance inouïe et voilà, c'est ça que ça m'inspire quand je pense à ça. Et je tiens à dire un truc aussi, c'est tout bête, mais je parlais tout à l'heure, j'évoquais le fait que je suis resté un gamin dans ma tête. J'ai la chance aujourd'hui de vivre mes rêves de gamin et c'est super important pour moi. Enfin, et j'ai aussi conscience de cette chance-là. Voilà.
Alors, quel rapport justement avec tes lecteurs? Parfois, j'ai vu des files d'attente pour des dédicaces. Quelles sont tes relations avec les gens qui te lisent et qui viennent te voir?
Ben, je viens un petit peu de le dire, mais voilà, non, enfin, moi, c'est énorme. Je les remercie parce que voilà, je trouve que j'ai la chance d'avoir ces lecteurs qui se retrouvent parfois dans ce que j'écris. Et puis, si j'arrive à leur faire, à leur apporter un tout petit peu d'évasion, même pendant quelques minutes, moi, je suis aux anges, quoi, c'est mon but. Il n'y a pas d'autre prétention derrière ce que j'écris que de réussir à voilà, faire rêver un petit peu les gens, à leur faire partager mon imaginaire. Et j'ai des lecteurs très divers. Donc il y a des gothiques, il y a des gens. Récemment, j'ai rencontré une actrice qui a 69 ans. C'est assez intéressant parce que chaque personne a vécu le texte ou l'histoire de manière totalement différente. Hein, et c'est très intéressant. Et puis parfois, les lecteurs ont des réflexions ou des questions auxquelles j'aurais jamais pensé moi-même. J'adore l'échange. Hein. Puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est aussi, je le disais tout à fait au début, mais pour faire partager quelque chose. Et quand ça fonctionne, quand il y a cet échange, moi je suis aux anges et de rencontrer les lecteurs, ça permet ça.
J'imagine qu'il y en a qui te demandent des conseils. Tu donnerais quel conseil à des jeunes auteurs qui voudraient écrire?
J'ai pas arrêté de le dire là depuis tout à l'heure, mais j'ai pas de technique, donc j'ai pas de secret. Il y a pas de recette magique. Moi, la seule chose que j'ai fait depuis toujours, c'est d'essayer paraphraser Nietzsche, de devenir qui je suis. Et j'en suis encore loin. Mais c'est ça, c'est d'essayer de faire les choses qu'on a au plus profond de nos tripes et de pas forcément écouter quand des oiseaux de mauvais augure nous disent que ça va jamais marcher ou que c'est malsain ou que ceci ou que cela. Juste d'essayer de faire les choses qu'on a en nous. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait et ça a mis longtemps, mais ça se matérialise. Donc c'est le seul conseil que je peux faire, c'est de jamais se décourager et de ne pas essayer d'appliquer des techniques, de ne pas dépenser des fortunes en atelier d'écriture qui vont juste vous prendre votre argent. Juste essayer de devenir soi-même, quoi, à faire son propre chemin personnel. Et je suis très naïf, mais je suis persuadé que ça marche.
Et alors, en termes de projet, donc il y a un recueil de nouvelles qui va ressortir incessamment, ouais, sous peu. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce recueil de nouvelles et puis après sur...
Mais c'est Dreamworld, dont, ouais, je parlais tout à l'heure. C'est 9 textes sur le thème donc de cette fameuse magie qu'on a quand on est petit et qu'on tue et qui est toujours là. Et c'est un petit peu le thème général. Et le fait de voir l'autre monde. C'est très difficile. Il y a 9 histoires qui sont totalement différentes, donc c'est très difficile de les résumer. Mais la thématique principale, c'est celle-là.
Et sur quoi est-ce que tu travailles?
Alors, donc cette année est sortie ma première tentative, mes premiers pas dans le thriller. Et là, je suis en train d'écrire, pas forcément la suite, mais ce sera un autre thriller qui met en scène le même enquêteur.
D'accord.
Et qui se déroule en France, avec, okay, des tueurs en série.
Voilà. Je refais un petit tour, est-ce que quelqu'un a une petite question? Et sinon, on va s'arrêter là. Une fois, deux fois, trois fois. Et ben voilà, n'hésitez pas à venir poursuivre la discussion avec Sir Cédric. Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Merci.